Donc, je peux passer la parole à Monsieur Etoin. Monsieur Etoin est président de Nord Mentalité, un groupement d'entraide mutuelle, et il est un de nos partenaires au quotidien de la Fédération de recherche en santé mentale. À vous la parole, Monsieur Etoin.
Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, oui. Je remercie la Fédération de recherche en santé mentale d'être parmi vous. Quoi. Et donc, pour m'exprimer dans cet espace d'éthique sur la question de quelle attention hein, pour les proches et, en santé mentale. Non, mais c'est parce que je pensais que vous mettiez le... Donc la santé mentale est une préoccupation de plus en plus présente au sein de la population. Aussi, le rôle des proches, appelés aussi aidants, nécessite une réflexion éthique particulière face aux problèmes liés aux pathologies chroniques. L'accompagnement des personnes malades doit être renforcé avec humanité. Et plus que jamais, la démocratie participative en matière de santé mentale doit s'ouvrir et permettre d'établir une relation soignant-soigné sans équivoque. Après la loi de 2002, dit le droit des malades, la loi HPST préconise un meilleur soutien de l'entourage, des personnes malades en particulier, les personnes fragilisées psychiquement. Le prolongement de la durée de vie, l'augmentation de la précarité, de l'exclusion des modes de vie difficiles, le recours tardif aux soins, l'environnement impropre, les mal logés, l'inactivité, sont quelques facteurs qui nécessiteront, tôt ou tard, une prise en charge par des professionnels médicaux, médico-sociaux, partenaires sociaux, mais aussi avec les proches. Soyons soignés, voilà un équipage établissant des relations qui peuvent devenir longues vis-à-vis des patients atteints de maladies chroniques. Certains troubles psychiques nécessitent, me semble-t-il, qu'on y ajoute une troisième dimension, celle de l'entourage, dont les responsabilités sont mieux partagées avec les usagers. Il s'agit à ce moment-là de les identifier. Ça peut être les proches familles, les usagers, les pères aidants ou médiateurs de santé qui ont, de par leur vécu, une expérience à transmettre, des savoirs ainsi que des compétences, les associations de patients agréées, regroupés en collectif, par exemple le CIS, le collectif interassociatif sur la santé, les GEM, les groupes d'entraide mutuelle présents depuis 2005, les bénévoles formés, les réseaux de santé. L'utilisation des compétences de chacun par le biais de l'entourage qui assurerait des services pour la population concernée réduirait les coûts élevés en matière de santé et qui sont de surcroît supportés par la société. De ce fait, nous devrions agir au niveau curatif et préventif, notamment par l'éducation thérapeutique, qui est aujourd'hui peu présente en santé mentale. Des décisions prises en commun avec des professionnels de santé et l'entourage permettraient de réaliser une transversalité liée à l'accompagnement des psychotiques en créant les trois approches indissociables, biologiques, psychologiques et sociales. Ces décisions sont relativement complexes en matière de suivi, de l'accompagnement, car l'entourage peut s'affaiblir, s'épuiser au fil des temps et même être un mauvais soutien aux usagers. Il est nécessaire, de ce fait, de mettre en œuvre des formations de programmes appropriées pour les proches et les accompagnants. Ces informations à l'attention des proches permettraient de communiquer entre eux des informations nécessaires pour leur compréhension à la prise en charge de la personne malade. Là se posera peut-être la question du problème du secret médical partagé. Que pourrait-on dévoiler à un proche? Ne vaudrait-il pas mieux que les proches agissent dans des domaines de compétences bien établis et acceptés par le malade lui-même, car acteur de sa santé? Pour respecter les demandes légitimes des proches, il ne faut pas oublier que l'accompagnement doit être le plus correct possible avec un partenariat qui se doit de suivre des personnes malades en matière de continuité des soins, d'obtention des ressources insuffisantes, d'accès au logement, les SAVS, les GEM, la protection juridique, le travail adapté. Et donc, pour activer les proches ou aidants, une coordination est nécessaire pour faire circuler toute information utile. Il serait bon d'inclure les proches dans des temps de formation spécifiques tels que la psychopathologie, l'éducation thérapeutique, les programmes d'éducation à la santé. Une politique en matière de soutien d'aide aux aidants, afin d'éviter l'épuisement d'eux-mêmes, d'aide aux associations donc spécifiques comprenant en leur sein des professionnels spécialisés à l'accompagnement en créant le statut de nouveaux métiers devrait être développé à proximité. Les élus doivent se mobiliser davantage par le biais des clics, mais aussi favoriser le rétablissement des liens sociaux dans la santé, dans la cité. Les notions de soins de proximité et de l'accès aux soins pour tous doivent être comprises car les inégalités existent. Des campagnes spécifiques d'information en matière de déstigmatisation doivent être soutenues. Les médias s'efforceront de dédramatiser des situations qu'elles recueillent et d'agir avec prudence. Des informations en matière de proximologie doivent circuler. La représentation des proches en santé mentale est difficile, car cette branche de la médecine a été traitée à part. Le droit des patients et des familles rend difficile la tâche aux proches qui n'arrivent pas forcément à conjuguer leur vie de travail et familiale quand ils rencontrent des problèmes. Il devrait être possible aux aidants de pouvoir bénéficier davantage sur leur temps de travail. L'employeur pourrait-il se sensibiliser aux risques liés à un malade d'un de leurs salariés? La réflexion sur les proches mène à des concepts nouveaux d'accompagnement. Elle doit donc de répondre aux attentes des patients pour améliorer la qualité des soins. Une étroite collaboration avec l'entourage permettra des synergies nouvelles par une démocratie sanitaire en coordonnant le droit individuel à être informé sur sa santé et les droits collectifs en matière de santé publique. Voilà, donc je remercie ceux et celles qui m'ont aidé, ils ne sont pas forcément ici, mais il y a quand même des gens ici qui m'ont aidé, je crois, dans mon parcours de vie, car sans eux, hein, je ne serais pas ici ce soir. Voilà, je vous remercie. C'est ensemble que nous avançons.
Merci, monsieur Etoin. Est-ce qu'il y a des questions? J'en aurais une, monsieur Etoin. Vous avez énoncé énormément de questions. Quelle est votre priorité?
Comme le disait monsieur Hirsch tout à l'heure, j'aide les gens parce qu'on m'a aidé. Mon souci, c'est toujours d'accompagner des gens, parce que, mais je suis pas, je leur dis à chaque fois quand je les accompagne, je suis pas leur père, je suis pas leur frère, je suis pas leurs amis. J'ai une distance avec eux, mais mon cœur est là quand même. Donc, quand même, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour ces personnes. Mais, je prends, si vous voulez, un certain bonheur, un certain plaisir de faire ça, parce que j'ai toujours fait ça. Je suis un militant né, comme on dit. J'ai pas eu de parents, j'ai eu des tas de malheurs dans ma vie et j'ai dû apprendre à rebondir. Donc je suis peut-être quelqu'un de résilient, très résilient. Mais aussi j'ai mes faiblesses, j'ai besoin aussi d'être soutenu par d'autres pères. Et puis je retrouve des personnes en France, hein, qui sont des amis, quoi. Et je vais chercher des ressources chez elles, et ça me réconforte que je suis pas tout seul, quoi. Et puis, ce qui manque aujourd'hui, bien sûr, c'est des personnes comme ces personnes qui vont donc accompagner, quoi. C'est important qu'ils ont un soutien également, et parce qu'elle peut s'user. Et puis moi, je vois pas que je ferai ça encore 10 ans. Je sais pas. Je prendrai du recul aussi, quoi.
Donc partager.